Japet épousa Climène, cette jeune océanide aux pieds charmants. Tous deux montèrent sur la même couche, et Climène enfanta le magnanime Atlas, l'orgueilleux Ménétius, l'adroit et astucieux Prométhée, et l'imprudent Épiméthée, qui, dès le principe, causa tant de mal aux industrieux habitants de la Terre, car c'est lui qui le premier accepta pour épouse une vierge formée par l'ordre de Jupiter. Jupiter, à la large vue, furieux contre l'insolent Ménétius, le plongea dans les rêves, après l'avoir frappé de son brillant tonnerre pour châtier sa méchanceté et son audace sans mesure. Vaincu par la dure nécessité, Atlas, aux bornes de la terre, debout devant les Hespérides à la voix sonore, soutient le vaste ciel de sa tête et de ses mains infatigables. Tel est l'emploi que lui imposa le prudent Jupiter. Quant au rusé Prométhée, il l'attacha par des nœuds indissolubles autour d'une colonne. Puis, il envoya contre lui un aigle aux ailes étendues qui rongeait son foie immortel. Il en renaissait autant durant la nuit que l'oiseau aux larges ailes en avait dévoré pendant le jour. Mais le courageux rejeton d'Alcmène aux pieds charmants, Hercule, tua cet aigle, repoussa un si cruel fléau loin du fils de Japet et le délivra de ses tourments. Le puissant monarque du haut Olympe, Jupiter, y avait consenti afin que la gloire de l'Hercule Thébain se répandît plus que jamais sur cette terre fertile. Dans cette idée, il honora son illustre enfant et abjura son ancienne colère contre Prométhée, qui avait lutté de ruse avec le puissant fils de Saturne. En effet, lorsque les dieux et les hommes se disputaient dans Mécone, Prométhée, pour tromper la sagesse de Jupiter, exposa à tous les yeux un bœuf énorme qu'il avait divisé à dessein. D'un côté, il renferma dans la peau les chairs, les intestins et les morceaux les plus gras, en les enveloppant du ventre de la victime. De l'autre, il disposa, avec une perfide adresse, les os blancs qu'il recouvrit de graisse luisante. Le père des dieux et des hommes lui dit alors, « Fils de Japet, ô le plus illustre de tous les rois, ami, avec quelle inégalité tu as divisé les parts !» Quand Jupiter, doué d'une sagesse impérissable, lui eut adressé ce reproche, l'astucieux Prométhée répondit en souriant au fond de lui-même, car il n'avait pas oublié sa ruse ingénieuse, « Glorieux Jupiter, ô le plus grand des dieux immortels, choisis entre ces deux portions celle que ton cœur préfère. » À ce discours trompeur, Jupiter, doué d'une sagesse impérissable, ne méconnut point l'artifice, il le devina, et dans son esprit forma contre les humains de sinistres projets qui devaient s'accomplir. Bientôt, de ses deux mains, il écarta la graisse éclatante de blancheur. Il devint furieux, et la colère s'empara de son âme tout entière quand, trompé par un art perfide, il reconnut les os blancs de l'animal. Depuis ce temps, la terre voit les tribus des hommes brûler en l'honneur des dieux les blancs ossements des victimes sur les autels parfumés. Jupiter, qui rassemble les nuages, s'écria enflammé d'une violente colère. « Fils de Japet, ô toi que nul n'égale en adresse, ami, tu n'as pas oublié tes habiles artifices. » Ainsi, dans son courroux, parla Jupiter, doué d'une sagesse impérissable. Dès ce moment, se rappelant sans cesse la ruse de Prométhée, il n'accorda plus le feu inextinguible aux hommes infortunés qui vivaient sur la terre. Mais le noble fils de Japet, habile à le tromper, déroba un étincelant rayon de ce feu et le cacha dans la tige d'une férule. Jupiter, qui tonne dans les cieux, blessé jusqu'au fond de l'âme, conçut une nouvelle colère lorsqu'il vit parmi les hommes la lueur prolongée de la flamme. Et voilà pourquoi il leur suscita soudain une grande infortune. D'après la volonté du fils de Saturne, le boiteux Vulcain, ce dieu illustre, forma avec de la terre une image semblable à une chaste vierge. Minerve, aux yeux bleus, s'empressa de la parer et de la vêtir d'une blanche tunique. Elle posa sur le sommet de sa tête un voile ingénieusement façonné et admirable à voir. Puis, elle orna son front de gracieuses guirlandes tressées de fleurs, nouvellement écloses, et d'une couronne d'or que le boiteux Vulcain, ce dieu illustre, avait fabriqué de ses propres mains par complaisance pour le puissant Jupiter. Sur cette couronne, ô prodige, Vulcain avait ciselé les nombreux animaux que le continent et la mer nourrissent dans leur sein. Partout brillait une grâce merveilleuse, et ses diverses figures paraissaient vivantes. Quand il eut formé, au lieu d'un utile ouvrage, ce chef-d'œuvre funeste, il amena dans l'assemblée des dieux et des hommes cette vierge orgueilleuse des ornements que lui avait donnée la déesse aux yeux bleus, fille d'un père puissant. Une égale admiration transporta les dieux et les hommes dès qu'ils aperçurent cette fatale merveille si terrible aux humains. Car de cette vierge est venue la race des femmes au sein fécond, de ces femmes dangereuses, fléaux cruels, vivant parmi les hommes et s'attachant non pas à la triste pauvreté, mais au luxe éblouissant. Lorsque, dans leur ruche couronnée de toits, les abeilles nourrissent les frelons, qui ne participent qu'au mâle depuis le lever du jour jusqu'au soleil couchant, ces actives ouvrières composent leurs blanches cellules, tandis que, renfermés au fond de leur demeure, les lâches frelons dévorent le fruit d'un travail étranger. Ainsi Jupiter, ce maître de la foudre, accorda aux hommes un fatal présent en leur donnant ces femmes complices de toutes les mauvaises actions. Voici encore un autre mal qu'il leur renvoya au lieu d'un bienfait. Celui qui, fuyant l'hymen et l'importune société des femmes, ne veut pas se marier et parvient jusqu'à la triste vieillesse, reste privé de soins. Et s'il ne vit pas dans l'indigence, à sa mort, les parents éloignés se divisent son héritage. Si un homme subit la destinée du mariage, quoi qu'il possède une femme pleine de chasteté et de sagesse, pour lui le mal lutte toujours avec le bien. Mais s'il a épousé une femme vicieuse, tant qu'il respire, il porte dans son cœur un chagrin sans borne, une douleur incurable. On ne peut donc ni tromper la prudence de Jupiter, ni échapper à ses arrêts. Le fils de Japet lui-même, l'innocent Prométhée, n'évita point sa terrible colère. Mais, vaincu par la nécessité, malgré sa vaste science, il languit, enchaîné par un lien cruel. Saturne, irrité dans son âme contre Briarée, Cotus et Gigès, s'empressa de les attacher par une forte chaîne, tandis qu'il admirait leur audace extraordinaire, leur beauté et leur haute stature. Il les renferma dans la terre au large flanc. Là, en des lieux reculés, aux extrémités de cette terre immense, ils souffraient un sort rigoureux et gémissaient, le cœur en proie à une grande tristesse. Mais Jupiter et les autres dieux immortels, que Rhéa aux beaux cheveux avait conçus de Saturne, les rendirent à la clarté du jour, d'après les conseils de la terre. En effet, la terre, par de longs discours, leur fit comprendre qu'avec ses guerriers ils obtiendraient la victoire et une gloire éclatante. Longtemps éprouvés par de pénibles travaux, les dieux titans et les enfants de Saturne se livrèrent entre eux de terribles batailles. Du haut de l'Otrice, les glorieux titans, du faîte de l'Olympe, les dieux auteurs de tous les biens, les dieux que Rhéa aux beaux cheveux avait engendrés en s'unissant à Saturne, continuèrent leur sanglante lutte durant 10 années entières. Cette funeste guerre n'avait ni terme, ni relâche, et l'avantage flottait égal entre les deux parties. Enfin, Jupiter, dans un riche festin, prodigua à ses défenseurs le nectar et l'ambroisie dont se nourrissent les dieux eux-mêmes. Leur généreux courage se réchauffa dans toutes leurs âmes. Quand le nectar et la douce ambroisie les eurent rassasiés, le père des dieux et des hommes leur adressa ces paroles. Écoutez-moi, nobles enfants de la terre et d'Uranus. Je vous dirai ce que mon cœur m'inspire. Déjà, depuis trop longtemps, animés les uns contre les autres, nous combattons chaque jour pour la victoire et pour l'Empire, les dieux titans et nous tous qui sommes nés de Saturne. Dans ces combats meurtriers, opposés aux titans, montrez-leur votre force redoutable et vos mains invincibles. Fidèles au souvenir d'une douce amitié, songez qu'après de longues souffrances, affranchis par notre sagesse d'une chaîne cruelle, vous êtes remontés d'un abîme de ténèbres à la lumière du jour. Il dit. L'irréprochable Cotus répliqua en ces termes. « Dieu respectable, tu ne nous apprends rien de nouveau. Nous aussi, nous savons combien tu l'emportes en sagesse et en intelligence. Tu as repoussé loin des immortels une horrible calamité. C'est grâce à ta prudence que nous avons été arrachés de notre obscure prison et délivrés de nos fers douloureux, ô roi fils de Saturne, après avoir enduré des tourments inouïs. Maintenant donc, remplis d'une sage et ferme volonté, nous t'assurerons l'Empire dans cette guerre terrible en bravant les titans au milieu des ardentes batailles. » Il dit. Les dieux, auteurs de tous les biens, approuvèrent ce discours, et leur cœur brûla pour la guerre d'un désir plus violent que jamais. Dans ce jour, un grand combat s'engagea entre tous les dieux et toutes les déesses, entre les titans et les enfants de Saturne que Jupiter tira des abîmes souterrains de l'Érèbe pour les rappeler à la lumière, armée formidable, puissante, douée d'une force prodigieuse. Ces guerriers avaient chacun 100 bras qui s'élançaient de leurs épaules et 50 têtes attachées à leur dos planaient sur leurs membres robustes. Opposés aux titans, dans cette guerre désastreuse, tous portaient dans leurs fortes mains d'énormes rochers. De l'autre côté, les titans, pleins d'ardeur, affermissaient leurs phalanges. Les deux parties déployaient leur audace et la vigueur de leurs bras. Un horrible fracas retentit sur la mer immense. La terre poussa de longs mugissements. Le vaste ciel gémit au loin, ébranlé, et tout le grand Olympe trembla, secoué jusqu'en ses fondements par le choc des célestes armées. Le ténébreux Tartare entendit parvenir dans ses abîmes l'épouvantable bruit de la marche des dieux, de leurs tumultueux efforts et de leurs coups violents. Ainsi, les deux troupes ennemies lançaient l'une sur l'autre 1000 traits douloureux. Tandis que chacune s'encourageait à l'envi, leurs clameurs montaient jusqu'au ciel étoilé et de grands cris retentissaient dans cette mêlée terrible. Alors, Jupiter n'enchaîna plus son courage. Son âme se remplit soudain d'une bouillante ardeur, et il déploya sa force tout entière. S'élançant des hauteurs du ciel et de l'Olympe, il s'avançait armé de feux étincelants. Les foudres, rapidement jetées par sa main vigoureuse, volaient au milieu du tonnerre, et des éclairs redoublaient, et roulaient au loin une divine flamme. La terre féconde mugissait partout consumée, et les vastes forêts pétillaient dans ce grand incendie. Le monde s'embrasait. On voyait bouillonner les flots de l'océan et la mer stérile. Une brûlante vapeur enveloppait les titans terrestres. La flamme immense s'élevait dans l'air céleste, et les yeux des plus braves guerriers étaient aveuglés par l'éblouissant éclat de la foudre et du tonnerre. Le vaste incendie envahit le chaos. Les regards semblaient voir, les oreilles semblaient entendre encore ce désordre qui agita le monde dans ces temps où la terre et le ciel élevés s'entrechoquaient avec un épouvantable fracas, lorsque la terre allait périr et que le ciel cherchait à la détruire en l'écrasant, tant ces dieux rivaux faisaient partout retentir un belliqueux tumulte. Tous les vents, déchaînant leur rage, soulevaient des tourbillons de poussière, mêlés au tonnerre, aux éclairs et à l'ardente foudre très enflammée du grand Jupiter. Il répandait au milieu des deux armées le bruit et les clameurs. Cette effroyable lutte continuait avec un fracas immense. Partout se déployait une égale vigueur. La victoire se déclara enfin. Jusqu'alors, l'un et l'autre parti, en s'attaquant, avaient montré le même courage dans cette violente bataille, mais, habiles à soutenir au premier rang un combat acharné, Cotus, Briaré et Gigès, insatiables de carnage, de leurs mains vigoureuses, lancèrent coup sur coup 300 rochers, ombragèrent les titans d'une nuée de flèches, et, vainqueurs de ces superbes ennemis, les précipitèrent tout chargés de douloureuses chaînes sous les abîmes de la terre au large flanc, aussi loin que le ciel s'élève au-dessus de la terre. Car un même espace s'étend depuis la terre jusqu'au sombre Tartare. Une enclume d'airain, en tombant de la terre, roulerait également 9 jours et 9 nuits et ne parviendrait au Tartare que le 10e jour. Cet affreux abîme est environné d'une barrière d'airain. Autour de l'ouverture, la nuit répand 3 fois ses ombres épaisses. Au-dessus reposent les racines de la terre et les fondements de la mer stérile. Là, par l'ordre de Jupiter qui rassemble les nuages, les dieux titans languissent, cachés dans les ténèbres, au fond d'un gouffre impur, aux extrémités de la terre lointaine. Cette prison n'offre point d'issue. Neptune y posa des portes d'airain. Des deux côtés, un mur l'environne. Là demeurent Gigès, Cotus et le magnanime Briaré, fidèles gardiens, placés par Jupiter, ce maître de l'égide. Là sont tracées avec ordre les premières limites de la sombre terre, du ténébreux Tartare, de la stérile mer et du ciel étoilé. Limites fatales, impures, abhorrées même par les dieux. Gouffre immense. Le mortel qui oserait en franchir les portes ne pourrait au bout d'une année en toucher le fond. Il serait entraîné, çà et là, par une tempête que remplacerait une tempête plus affreuse encore. Ce prodigieux abîme fait horreur aux dieux immortels. C'est là que le terrible palais de la nuit obscure s'élève, couvert de noirs et épais nuages. Debout à l'entrée, le fils de Japé soutient vigoureusement le vaste ciel de sa tête et de ses mains infatigables. Le jour et la nuit, s'appelant mutuellement, franchissent tour à tour le large seuil d'airain. L'un entre, l'autre sort, et jamais ce séjour ne les rassemble tous les deux. Sans cesse, l'un plane au dehors sur l'immensité de la terre, et l'autre, dans l'intérieur du palais, attend que l'heure de son départ soit arrivée. Le jour dispense aux mortels la lumière, au loin étincelante. Et la nuit funeste, revêtue d'un sombre nuage, porte dans ses mains le sommeil, frère de la mort. Là demeurent les enfants de la nuit obscure, le sommeil et la mort, divinité terrible que le soleil resplendissant n'éclaire jamais de ses régions, soit qu'il monte vers le ciel, soit qu'il en redescende. Le sommeil parcourt la terre et le vaste dos de la mer en se montrant toujours paisible et doux pour les humains. Mais la mort a un cœur de fer. Une âme impitoyable respire dans sa poitrine d'airain. Le premier homme qu'elle a saisi, elle ne le lâche pas, et elle est odieuse même aux immortels. Près de là se dressent les demeures retentissantes du puissant Pluton, dieu des enfers, et de la terrible Proserpine. La porte en est confiée à la garde d'un chien hideux et cruel. Cet animal, par une méchante ruse, caresse tous ceux qui entrent en agitant sa queue et ses deux oreilles. Mais il ne les laisse plus sortir. Et les épiant avec soin, il dévore quiconque veut repasser le seuil du puissant Pluton et de la terrible Proserpine. Là demeure encore la fille aînée de l'océan au rapide reflux, la formidable Styx, reine abhorrée des immortels. Le beau palais qu'elle habite loin des autres dieux s'élève, couronné de rocs énormes et soutenu par des colonnes d'argent qui montent vers le ciel. Quelquefois, la fille de Thomas, Iris aux pieds légers, vole, messagère docile, sur le vaste dos de la mer, lorsqu'une rivalité ou une dispute règne parmi les dieux. Si l'un des habitants de l'Olympe s'est rendu coupable d'un mensonge, Iris, envoyée par Jupiter pour consacrer le grand serment des dieux, va chercher au loin dans une aiguillère d'or cette onde fameuse qui descend, toujours froide, du sommet d'une roche élevée. La plupart des flots du Styx, jaillissant de leur source sacrée, coulent sous les profondeurs de la terre immense, dans l'ombre de la nuit, et deviennent un bras de l'océan. La dixième partie en est réservée au serment. Les neuf autres, serpentant autour de la terre et du vaste dos de la plaine liquide, vont se jeter dans la mer en formant mille tourbillons argentés, tandis que l'eau qui tombe du rocher sert au châtiment des dieux. Si l'un des immortels qui habite le faîte du neigeux Olympe se parjure en répandant les libations, il languit pendant toute une année, privé du souffle de la vie, ne savoure plus ni l'ambroisie ni le nectar, et reste étendu sur sa couche, sans respiration, sans parole, plongé dans un fatal engourdissement. Lorsque, après une grande année, sa maladie a terminé son cours, il est condamné à des tourments nouveaux. Durant 9 années entières, il vit séparé des dieux immortels, sans jamais se mêler à leurs conseils ou à leurs banquets. À la 10e année seulement, il entre dans l'assemblée de ces dieux habitants de l'Olympe. Ainsi, les dieux consacrèrent au serment l'onde incorruptible du Styx, cette onde antique qui traverse des lieux hérissés de rochers.